Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107FM.
Bonjour à tous. C'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. Je suis en compagnie de Anne Legille. Elle a quitté ses fonctions de directrice du parc national à la fin de l'année dernière, après avoir été aux commandes de l'établissement public pendant 8 ans. Alors avant qu'elle ne s'envole vers de nouveaux horizons, je lui ai demandé de partager quelques-uns de ses plus beaux souvenirs, ses plus beaux projets, en compagnie d'invités de son choix. Donc nous sommes donc ce matin avec Claudie Pascal-Martin, Virginie Boucher et Guillaume Cana. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Je ne vous présente pas, je vais laisser le soin à Anne Legille de vous présenter en quelques mots et de nous expliquer aussi pourquoi elle vous avait choisi pour cette émission.
Bonjour à tous, moi je laisserai chacun se présenter, mais peut-être vous dire pourquoi j'ai souhaité partager ce moment avec ces trois invités. Tout d'abord parce que c'est des personnes que j'apprécie, avec qui j'ai passé des bons moments au parc, des moments importants pour l'établissement, je pense qu'on va y revenir au cours de l'émission. Et puis je dirais que c'est peut-être aussi une façon de rendre hommage à leur engagement, à leur attachement au parc, au territoire, et avec une forme différente de celle, par exemple, de l'engagement des élus, comme les présidents. C'est peut-être des invités moins évidents, entre guillemets, mais ça me semblait important, justement, de montrer qu'il y avait une grande diversité dans les formes d'attachement et d'engagement au parc.
Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer avec vous, Claudie Pascal-Martin. Donc, vous avez toujours été impliquée aux côtés du parc pour le développement d'un tourisme durable. Vous avez été notamment présidente de l'OT communautaire à Florac. Vous avez adhéré à la marque Esprit Parc National pour vos chambres d'hôtes de la ferme de Saliège en 2015, donc dès le lancement de la marque. Et l'année dernière, vous avez accueilli la première aire de bivouac dans une commune de l'aire d'adhésion, pas en cœur de parc, mais chez vous, sur la commune de Florac, donc sur votre terrain au bord de la rivière. Alors pourquoi cet engagement de longue date auprès du parc ?
Tout simplement parce que la préservation de l'environnement, des patrimoines et des savoir-faire locaux, pour moi c'est important. L'économie que génère le tourisme doit s'inscrire dans ces valeurs. Je fais ma petite part dans cet écosystème. Voilà, c'est ma façon à moi de participer à l'environnement qui nous est cher. Je l'ai souvent dit, le Parc National des Cévennes, c'est une chance pour le territoire, qu'on soit professionnel du tourisme ou pour les communes. C'est un partenaire majeur. Et en 2015, effectivement, j'ai été sollicitée pour tester la toute première grille d'évaluation, le fameux RUC, qu'on appelle, en construction pour l'élaboration de la marque Esprit Parc. J'étais déjà dans cette démarche de tourisme durable avec Cévennes Écotourisme, que Virginie connaît bien, puisque c'est même elle qui m'avait sollicité à mon installation. Donc depuis le début de mon activité, j'étais déjà impliquée là-dedans. Et puis, effectivement, l'année dernière, en 2023, la création par le parc et le réseau IPAMAC d'une aire de bivouac expérimentale, pour laquelle j'ai mis un terrain à disposition pour accueillir les randonneurs en itinérance et en autonomie. Sur les différents GR, que ce soit le GR Tarn, Stevenson ou Urbain 5.
Il y a eu des randonneurs se sont arrêtés, est-ce que...
Oui. On a ouvert un peu tard, en juillet, mais effectivement, jusqu'au mois de novembre, j'ai eu du passage, donc soit des gens à pied, soit des gens en vélo. Qui sont toujours ravis de... Soit ils découvrent par hasard... Soit ils en ont eu connaissance par les topo-guides, mais c'est arrivé souvent par hasard. Et les gens sont vraiment satisfaits et heureux de trouver une structure comme ça, un lieu comme ça. Voilà.
Et quel serait le projet conduit sous la direction de Anne que vous retenez ?
Certainement, pour moi, celui qui est quand même marque le territoire, c'est la création de la Maison du Tourisme, d'avoir centralisé l'information entre l'Office de Tourisme et le Parc National. C'est un travail remarquable qui a été mené par les différentes équipes. Et voilà, je pense que c'est ça que je retiendrai en priorité, quoi.
Anne, vous le citez aussi souvent. Hein, donc,
Oui, bien sûr, parce que c'est un élément de visibilité du parc sur le territoire. Et moi, je me suis particulièrement impliquée aux côtés d'Eddie Balay, hein, qui a été vraiment l'artisan de toute l'exposition permanente, et puis de Madame Navetch, notre scénographe. Et j'ai adoré ce travail, en fait. Voilà, je pense que j'ai relu chaque texte 50 fois et on est très heureux parce qu'en fait, bon, on le sait, hein, les Floraquois sont des gens qui sont toujours un peu critiques. Ils étaient inquiets du transfert de l'office du tourisme du centre-ville sur la place de la gare. Et en fait, quand la maison a été ouverte, il n'y a plus eu une seule critique. Et moi, ce qui me plaît vraiment avec cette maison, c'est que les gens du territoire se la sont appropriés. Quand des gens de la famille viennent ou des amis, on les emmène à la maison du tourisme mais du parc, et on est fiers en fait d'avoir cet équipement sur le territoire. Donc oui, je suis très heureuse qu'on ait pu mener ce projet à bien.
Avec une fréquentation qui est quand même conséquente, hein, chaque année par rapport à la boutique du parc qui était au siège, c'est vrai qu'on n'est plus sur le même nombre de fréquentations.
Oui, puis les craintes liées au fait que les gens ne s'arrêteraient plus à Florac parce que l'office du tourisme n'est plus dans le centre-ville, je pense qu'elles se sont vraiment évanouies.
Au contraire,
voilà, parce qu'on attrape, entre guillemets, des gens qui n'avaient pas forcément envie de s'arrêter dans Florac. Ils voient cette maison, il y a un parking juste à côté, et ensuite, ils viennent déambuler à pied par la passerelle du pont de fer. Donc, c'est idéal, en fait.
Est-ce que vous auriez un souvenir ou une anecdote à partager?
Pas d'anecdote particulière, mais moi, je garde quand même un souvenir de notre première rencontre avec Anne. C'était sur le marché paysan du dimanche matin. Voilà. De nos premiers échanges et je pense que c'est un petit peu là aussi qu'a germé à ce moment-là cette idée de regrouper voilà par la discussion et donc voilà les échanges tout de suite ont été cordiaux et amicaux.
Facile, voilà. Voilà. Bon, puis moi, j'avoue, je suis une inconditionnelle des confitures de Claudie. Alors, notamment la confiture de framboise, je vous la recommande, c'est une tuerie et il n'y a pas meilleur, quoi. Voilà.
Bon, comment vous ferez après? Vous partirez avec les stocks?
Ah, ben, bien sûr, c'est clair, j'ai prévu et puis je viendrai me réapprovisionner régulièrement, ça, c'est sûr.
En 2018, le parc national des Cévennes est labellisé réserve internationale de ciel étoilé. Avant d'en parler avec vous, Guillaume, Claudie, vous qui avez des chambres d'hôtes, est-ce que certains de vos hôtes viennent notamment pour la qualité du ciel étoilé depuis cette labellisation? Est-ce que vous constatez une évolution?
Oui, certains. Après, moi, mon emplacement en fond de vallée n'est pas idéal pour l'observation, donc je les envoie plutôt sur le Cosmégen ou sur le Mont Lozère pour pouvoir pratiquer ça. Mais effectivement, on a des gens qui viennent aussi pour ça. C'était le but.
D'ailleurs, Virginie, il me semble que vous avez des chambres, des gîtes sur le coast. Donc vous...
Alors moi, les gens viennent pas pour ça. Enfin, j'en ai une fois qui est quelqu'un qui est venu vraiment pour le label. Mais par contre, j'en parle systématiquement et puis ils s'en rendent compte d'eux-mêmes. Et c'est vraiment un atout, ce ciel étoilé. Et sublissime, enfin, c'est incroyable chaque soir, hier soir encore quand je me promenais, c'était magique et nos hôtes en profitent. Et voilà, c'est vraiment l'occasion de parler de ce label qui est hyper intéressant et pas très connu. Donc c'est un atout fort pour nous, pour qu'ils reviennent en tout cas.
Guillaume Cana, vous êtes astronome amateur et l'on peut admirer vos clichés et tout savoir sur les constellations observées à chaque saison sur votre blog Autour du ciel, sur le site du Monde. Donc cette qualité de ciel des Cévennes, les astronomes la connaissaient depuis très très longtemps, vous le confirmez?
Ah bah oui, tout à fait, puisque en fait depuis plus de 40 ans, en fait, les astronomes de la région se réunissent dans les Cévennes pour observer le meilleur ciel possible. Et la Société Astronomique de Montpellier a bâti son observatoire à côté du lac d'Épise il y a presque 40 ans maintenant. Donc oui, c'est vraiment une réputation certaine dans la région. Et c'est vrai que toute l'histoire autour du label de RIS a amené à faire connaître dans le milieu des astronomes amateurs la région et le parc. Et nous, en tant qu'astronomes amateurs, on a une très forte demande d'observateurs, de photographes pour venir observer et pour des sites d'observation, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile de faire connaître le label auprès d'un public encore plus vaste. On essaye et on est bien aidé parce qu'en fait, c'est vrai que la Risse du Parc était la deuxième de France, mais elle a fait beaucoup de petits puisqu'il y a maintenant 5 risses en France. Il y a 3 nouvelles risses depuis que nous avons obtenu le label dans les Cévennes et il y a plusieurs autres candidatures. Donc, en fait, il va y avoir au moins 7 ou 8 risses en France dans les années qui viennent. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va permettre de faire une synergie et de faire une communication à l'échelon national pour vraiment renvoyer les gens vers les bons sites d'observation les plus proches de chez eux, etc. Donc, nous, on a la chance dans les Cévennes d'avoir ce qui est, à mon avis, vraiment le meilleur site de France au niveau pollution lumineuse. On est moins haut qu'au Pic du Midi, on est moins haut que dans les Alpes, mais on a moins de pollution lumineuse juste à côté de nous. La pollution lumineuse, il n'y en a quasiment pas dans le parc et il n'y en aura bientôt plus du tout, j'espère. Par contre, c'est vrai qu'on a de la pollution lumineuse qui vient des villes périphériques et des villes du littoral méditerranéen. Mais là aussi, il y a tout un travail de fond qui est réalisé avec ces grandes villes qu'on appelle les villes portes maintenant pour la réserve. Et notamment, il y a un travail maintenant qui va se développer aussi avec des villes comme Montpellier et Nîmes. Et donc, je pense que dans les années qui viennent, la qualité du ciel va encore s'améliorer.
Et comment donc vous avez toujours été également aux côtés du parc durant tout ce processus de labellisation, de quelle façon vous avez participé?
Moi, j'ai surtout participé justement en montrant à quel point le ciel des Cévennes était exceptionnel. J'ai eu la chance, j'ai été journaliste dans une revue d'astronomie et donc j'ai voyagé dans beaucoup de pays pour faire des observations, aller visiter des observatoires, accompagner des gens, voir des éclipses, des comètes, des aurores boréales, etc. Donc j'ai vu des ciels un peu partout sur la planète. J'en connais qu'un seul qui rivalise avec celui des Cévennes. C'est pas celui du Sahara parce que dans le Sahara, il y a souvent du sable en suspension et le ciel est très beau, il n'y a pas de pollution lumineuse, mais la transparence du ciel n'est pas aussi bonne qu'ici. Le seul, en fait, et on a déjà fait la comparaison pour d'autres choses, c'est la Mongolie. Et la Mongolie, vraiment, c'est un endroit exceptionnel, mais les conditions sont encore plus rigoureuses que dans les Cévennes l'hiver. Donc, on peut difficilement y aller régulièrement. Et puis, c'est à l'autre bout de la planète. Nous, on a la chance, avec le Cosmejan, d'avoir un petit bout de Mongolie dans le territoire. Et puis, sur le Mont Lozère, sur le Mont Aigoual, on a des ciels vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et c'est pas simplement parce que je suis passionné par la région, que j'habite ici depuis toujours, etc. C'est aussi, maintenant, il y a des systèmes automatiques d'observation de la qualité du ciel qui sont installés à plusieurs endroits sur le site, mais aussi dans toutes les autres réserves internationales de ciel étoilé en France. Et les données collectées au fur et à mesure, toutes les nuits, toute l'année, etc., montrent bien que le ciel le plus noir, c'est régulièrement sur le Mont Lozère, dans les Cévennes. Voilà. Donc vraiment, j'ai toujours essayé de refléter ça, essentiellement par mes images. C'est vrai que j'ai un blog qui a une certaine notoriété qui me permet de parler d'astronomie à un public plus vaste que celui des astronomes amateurs. Et régulièrement, je remets une dose de Cévennes, etc. Jusqu'au point où je me dis que peut-être il ne faut pas trop le dire parce que sinon on va avoir trop de monde. Mais voilà, c'est ma passion pour le ciel que j'ai essayé d'apporter dans tout le processus de labellisation.
Et est-ce qu'il y a une saison, un moment où le ciel est peut-être plus beau qu'à une autre? On parle, du mois de l'hiver avec ces ciels très purs.
Le ciel en hiver est exceptionnel. Simplement, on l'a pas souvent. En gros, en ce moment, on a 2-3 très belles nuits par mois. Il se trouve en ce moment qu'on a de la chance, ça tombe au moment de la nouvelle lune. Et en novembre, c'était pareil. En décembre, c'était pareil. Le reste de l'année, on a souvent des conditions météo qui sont excellentes et qui permettent d'observer le ciel à longueur de semaine. Et là, vraiment, ça fait la différence. Et puis, c'est quand même plus agréable pour le grand public d'observer le ciel quand il fait pas moins 8, moins 10. Bon, la nuit dernière, j'étais sur le Mont Lozère, il faisait moins 10 toute la nuit. Bon, quand on est bien équipé, on tient, mais quand on n'a pas l'équipement suffisant, on peut pas se permettre de passer des heures et des heures sous les étoiles, même si elles sont très très belles.
Anne, qu'a représenté pour vous cette labellisation?
C'était une grande fierté et un moment de partage assez exceptionnel. Alors, grande fierté de voir la qualité de l'environnement nocturne que vient d'évoquer Guillaume, reconnu internationalement. Fierté d'avoir été au bout de l'idée de mon prédécesseur. Je trouve que c'est vraiment une grande idée que d'avoir pensé à faire labelliser cette qualité de ciel cévenol sous l'impulsion, évidemment, des astronomes amateurs. Je me rappelle, Jean-Marie Lopez m'avait apporté un petit document qui datait de 1984, je crois, où ils alertaient déjà sur la pollution lumineuse, sur la nécessité de préserver cet environnement nocturne, etc. Et dans cette démarche, on a vraiment réussi à fédérer tout le monde. Alors, bien sûr, les astronomes, mais aussi les syndicats d'énergie départementaux, avec qui la collaboration a vraiment été très facile. Les élus qui ont décidé d'investir pour convertir leur éclairage public, les professionnels du tourisme, dont certains se sont équipés fortement pour justement accueillir des gens sensibles à cette discipline de l'observation du ciel étoilé. Et donc, le moment où on a été labellisé, comme l'a dit Guillaume, à ce moment-là, on était seulement la deuxième RIS en France, et puis on était la plus grande d'Europe. Donc, on était vraiment très, très fiers de ça. Il y a eu un très bel événement au domaine de Pradines à la Nuée Jolle. Et en fait, on sentait que, justement, les gens étaient fiers de dire... ils redécouvraient, en fait, la qualité de leur territoire. C'est vrai qu'on a tellement cette chance de vivre dans un environnement préservé...
Qu'on y ferait presque plus attention.
Parfois, on oublie.
Il ne faut pas oublier que 70 à 80% de nos concitoyens en France métropolitaine ne voient jamais la Voie lactée, voient jamais le ciel, parce qu'ils vivent dans des zones urbaines tellement éclairées qu'ils ne peuvent plus voir que quelques dizaines d'étoiles au grand maximum. Nous, on a la chance, on sort sur le pas de la porte, on lève la tête et on a la Voie lactée, on a des étoiles par milliers, quoi.
Et sans instrument spécifique et de manière très accessible. Le pic du Midi, c'est vrai que c'est la première RIS de France, mais il faut prendre un téléphérique, etc. Enfin, c'est moins évident. Nous, c'est exactement ça. Moi, le nombre de fois où en rentrant les soirs d'hiver, en faisant les 15 minutes entre le siège du parc et ma maison, j'en prends plein les yeux. Et ça, c'est extraordinaire, vraiment. Donc oui, j'ai été vraiment... très très heureuse qu'on puisse reconnaître la qualité de notre environnement nocturne.
Et peut-être qu'au départ la labellisation pensait pas peut-être on mesurait peut-être pas toutes les répercussions que ça pouvait peut-être avoir pour le territoire, même si ça reste à développer. C'est vrai qu'il y a un tourisme quand même qui se développe.
Il y a vraiment un engouement et vraiment oui, les gens le mettent très souvent en avant. Peut-être effectivement qu'on n'avait pas mesuré qu'il y aurait autant d'impact positif. Et moi, ce que j'adore vraiment, c'est que on est poussé par les habitants. Je me rappelle Henri une fois, donc Henri Coudert, l'ancien président du parc, me disait bon Anne, vous savez, on va réussir à éteindre dans certains hameaux, mais il y en a, ils ont vu l'arrivée de l'électricité, donc pour eux c'est une régression de couper l'éclairage nocturne en cœur de nuit, donc ça ne fonctionnera pas. Et en fait, quand les gens des hameaux voisins ont vu que ça s'éteignait à certains endroits et pas chez eux, ils sont venus le trouver pour dire « mais nous aussi, on veut que ça s'éteigne ». Et là, dernièrement, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, sont les syndicats d'électricité qui sont venus appuyer une demande que j'avais vis-à-vis des collègues depuis longtemps pour montrer l'impact de la réduction de la pollution lumineuse sur la biodiversité. Parce qu'on est arriver sur ce projet par l'entrée énergie, économie d'énergie, et ça c'est très bien, mais on est quand même un parc national, c'est important de montrer comment cette réduction de la pollution a aussi des effets bénéfiques sur la biodiversité. Et on a mis donc en place des petits dispositifs expérimentaux l'été dernier sur le Cosméjan et à Alès qui ont montré de manière très nette que la coupure de l'éclairage public en cœur de nuit préservait énormément les populations d'insectes.
Et ce sera reconduit l'année prochaine.
Exactement, pour assurer la robustesse scientifique de ce travail.
Sur ce, je vous propose de faire une petite pause musicale, on se retrouve juste après.
You're muscling and take it all.
Nous sommes de retour pour cette émission un peu spéciale, donc en compagnie de Anne Le Gille et de trois de ses invités. Et donc, après avoir parlé de la labellisation RIS, nous allons parler d'un autre grand événement qui s'est déroulé au cours de ces 8 dernières années. Cela a été donc la célébration du 50e anniversaire du parc. Anne, pourquoi cet événement restera-t-il dans votre mémoire ?
Un petit peu comme pour la labellisation RIS, parce que ça a été un grand moment de partage, en fait. Partage avec le territoire, avec nos collègues des autres parcs. Les 12 parcs, enfin les 11 parcs étaient présents lors du moment phare anniversaire au mois de septembre 2020. Et c'était pas gagné puisqu'on était en pleine pandémie, donc on a réussi à organiser un événement, il me semble, qui a vraiment fédéré sur l'ensemble du territoire du parc, et ça, j'en étais vraiment très heureuse, oui.
Donc Virginie, vous vous souvenez bien aussi, hein, puisque c'est vous qui étiez aux commandes pour l'organisation de cet événement, et qu'effectivement, nous étions donc en 2020, année du Covid, et quelques mois avant, on ne savait pas si ça allait être possible.
Oui, effectivement, c'était une expérience assez riche pour tout ce qu'a dit Anne, mais aussi pour cet épisode sanitaire qui nous a pris un peu par surprise, et il a fallu adapter le programme à multiples reprises. Enfin, Natacha, tu es au courant parce que tu étais pas mal avec moi sur cet événement aussi. Et donc, on a eu quelques petits contre-coups. On a dû évoluer, hein, Anne. On a changé pas mal de fois notre fusil d'épaule, mais effectivement, on a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Et on a eu chaud quand même, parce qu'à 2-3 semaines près, on n'aurait pas pu réaliser notre temps fort du 25 et 26 septembre.
Puis on a dû quand même annuler un certain nombre de manifestations. Et ça, c'est vrai que c'était compliqué pour les gens qui s'étaient investis. En fait, on a fait, c'était en février, je crois, 2020, on a fait l'ouverture au moment de Comptes et Rencontres.
Tout à fait.
Donc, au siège du parc. Donc là, tout va bien. Voilà, on annonce un programme très dense au printemps, en été et à l'automne. Et puis donc, mars 2020, confinement. Ouais. Et donc là, on a supprimé toute la programmation du printemps. Et donc là, on avait quand même beaucoup de collègues qui s'étaient investis, de partenaires. On avait publié les plaquettes.
Oui,
et tout ça est parti au pilon, quoi. Donc, c'est vrai
c'était les coups de cœur des partenaires, en fait. Ouais, on avait organisé, comme le disait Anne, c'était un événement très partagé parce qu'on avait sollicité vraiment tous les partenaires historiques du parc, enfin, donc du passé, du présent. Oui. Et on avait proposé qu'ils nous fassent découvrir des choses sur leur territoire. C'était ces fameux coups de cœur, le programme dont parle Anne, et c'est vrai que tous ceux du printemps ont dû être annulés. L'été, on a réussi à les faire avec un système de masques, de jauges, de distanciel, donc on a dû réadapter notre programme, mais on a quand même pu minimiser la casse en été.
Ouais.
Donc vous n'étiez pas toute seule, hein, il y avait un comité aussi, enfin voilà, ça a demandé quand même, il y avait beaucoup de monde hein, derrière tout ça.
Oui, c'était quand même un contrat de plus d'un an et demi de travail avec une montée en puissance, hein, avec un temps de travail qui montait en puissance au fur et à mesure de l'avancée. Et effectivement, c'était notre souhait, enfin c'était la commande d'Anne aussi et de la direction du parc de travailler avec le territoire. Donc on a constitué un groupe de travail pour imaginer ce que pourraient être ces 50 ans, qui rassemblait des partenaires, des élus, des agents du parc, des habitants lambda, des commerçants, des acteurs du tourisme. Et on a construit toute cette programmation à leur côté, en fait. Après, on a créé des petits groupes de travail thématiques et chaque fois associés aussi des services distincts du parc qu'on puisse approprier le projet avec, par exemple, une étude d'impact sur les changements climatiques, avec ces fameux programmes coup de cœur, avec un projet d'exposition d'histoire. Avec certaines. Donc ça permettait de mailler à la fois le territoire, engager tout le territoire dans ce projet de festivités, et aussi les agents, tous les agents et tous les services du parc. Et ça, je pense que ça a été la vraie réussite. En fait.
Ah oui, ça, c'est certain, c'est certain. Moi, c'est vraiment ce que je retiens de cet événement. Et puis, on a quand même contribué à faire travailler ensemble les Seines croisées de Lozère et le cratère d'Alès. Ça ne s'était jamais fait. Donc, moi, je suis très heureuse de ça aussi. Et la collaboration qui est née à l'occasion des 50 ans du parc perdure.
Oui, tout à fait.
Et ça, bah voilà, c'est un des résultats aussi. On le dit très souvent, le parc national des Cévennes, c'est un parc naturel, mais ça a failli aussi être le premier parc culturel de France. Et bah là, on continue à œuvrer pour la promotion de la culture sur ce territoire cévenol, en mettant les gens en rapport, etc. Et moi, vraiment, ce que j'ai adoré, c'est le travail avec Virginie, parce que ce qui est motivant dans ce type d'organisation, c'est que on invente tous les jours, on crée, c'est jamais pareil. Et donc, voilà, avec Virginie, j'avais une interlocutrice où quand on disait, on pourrait faire ça, oui, voilà. Puis on réfléchissait, puis ça partait. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant, je trouve.
Donc l'événement phare, hein, rapidement, a eu lieu donc les 25 et 26 septembre. Il y avait donc une cérémonie d'ouverture, un gâteau d'anniversaire, l'inauguration de la maison du tourisme et du parc, une table ronde sur le changement climatique, des ateliers prospectifs où les habitants et même les enfants devaient imaginer les Cévennes à l'horizon 2050, des expositions, des spectacles. Quel moment retenez-vous, Claudie, Guillaume, vous y avez participé, hein?
Oui, un petit peu. Moi, je me rappelle, j'aimerais bien savoir ce qui est devenu la malle, la fameuse malle.
Bah, bien sûr, je pense que tout le monde a ça en tête. Alors, la fameuse malle, elle est dans la salle du bas du château, avec tous ses trésors. Alors, en fait, il faut expliquer peut-être aux auditeurs ce que c'est que cette malle. C'est une idée donc d'Adrien, notre responsable de communication. On a ouvert une malle où ceux qui le souhaitaient pouvaient déposer un objet, un courrier ou voilà, tout ce qu'il souhaitait pour symboliser le parc. Et cette malle, on l'a fermée et on doit la réouvrir. Enfin, on doit. voilà, ceux qui seront là, voilà, dans 50 ans, la réouvriront pour avoir une idée et un témoignage de ce qu'était le parc en 2020. Et ce qui a vraiment énormément fonctionné, c'est le travail avec les enfants, puisqu'on a demandé à une classe de Florac de se mobiliser pour écrire, donc voilà, aux gens de dans 50 ans, comme ils disaient. Alors c'était drôle parce qu'en fait les gens de dans 50 ans, c'est eux, donc ils s'écrivaient à eux-mêmes. Et là, je dois aussi remercier notre président actuel, hein, Stéphane Morin, parce que quand Adrien a évoqué cette idée de la malle, moi j'ai dit, ah bah oui, ça serait bien qu'on fasse un travail avec les écoles, etc. Puis là, on m'a dit, ah bah non, mais Anne, les écoles, t'es gentille, mais là, c'est en juin, c'est pour septembre, ça marchera jamais et tout. Parce que souvent, quand même, il y avait ça, hein, aussi comme réflexion. J'ai dit, non, mais moi, je suis sûre, j'appelle Stéphane Morin et ça va fonctionner. Et évidemment, j'ai appelé Stéphane, il a dit, bah oui, banco, Anne. Et puis, c'est vraiment, moi, c'est ce dont on me parle encore aujourd'hui. Mes collègues des autres parcs, par exemple, me parlent souvent du moment où les gamins sont venus apporter leurs lettres aux gens de dans 50 ans.
Pour la cérémonie d'ouverture, ils sont tous montés sur la scène pour déposer. Hein.
Voilà, c'est ça, exactement.
Virginie, qu'est-ce que vous retenez, vous, de tout ça? Pas seulement l'événement, mais quelque chose, avoir...
En fait, du coup, là, j'avais réfléchi à des choses en préparant cette émission, parce que j'ai dû me replonger dedans quand même, j'avoue, un petit peu. Il y a plein de flashs, alors l'émotion de Pierre Fatini tout seul dans son église à Fraissinet-de-Lozère, le fourmillement des agents là, qui installent tout sur le moment du temps fort et puis qui rangent tout. Et c'était tellement rapide que je ne m'y attendais pas, avec l'engagement de tout le monde. Le petit stress là, au moment du gâteau sur le parvis de la Genette Verte, où du coup on s'est dit « Ouh là là, on va créer un cluster pour cet anniversaire des 50 ans ». Et puis la magie quand suite aux ateliers du futur, on a découvert les scénarios créés, inventés par les gens. Moi, j'ai adoré ce qui a été créé par ces groupes de travail. Et puis alors, en repensant à cette malle, je me rappelle d'un moment, je pense que c'était avec moi, Natacha, ou c'était Flo, je sais plus, où on a été mesurer toutes les niches du parc national avec un mec pour voir où on allait pouvoir caler la malle. Donc, j'ai passé 2 heures à faire tout le parc pour trouver un endroit pour ranger la malle. C'est des anecdotes rigolotes. Mais, donc, il y a tout le préparation et puis tout le pendant. Mais moi, c'est vrai que j'ai un peu... Je vois ça avec beaucoup de recul maintenant. Et sur le moment, même, j'étais plus en regard extérieur que dedans. Donc, je vois les autres, en fait, plutôt. En fait.
Très bien. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à ajouter? Guillaume, j'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure, enfin même pas à vous Anne. Est-ce que vous avez eu la chance d'observer le ciel étoilé en compagnie de Guillaume Cana?
Oui, à plusieurs reprises, mais j'avoue que on a souvent parlé d'une nuit entière au lac d'Épise que nous n'avons pas encore eu la chance de pouvoir organiser. Enfin, la chance, je parle pour moi, hein, parce que de toute façon, Guillaume, il y va régulièrement, mais c'est vrai qu'on avait projeté ça et ça, on n'a pas encore fait. Mais oui, j'ai eu la chance de faire des observations à l'Iguane, voilà, avec lors d'animation notamment.
Très bien, Anne, quelques mots peut-être pour conclure cette émission.
Ben, tout d'abord, remercier l'ensemble des personnes qui ont dit oui, donc Virginie, Claudie et Guillaume, et puis vous, Natacha, pour avoir eu l'idée d'organiser cette émission. Et puis, ben, moi, juste dire que pour moi, ça a été vraiment une grande chance de diriger cet établissement pendant 8 ans, avec une équipe de passionnés, avec de nombreux partenaires qui s'impliquent. On le voit, hein, au travers des témoignages qui ont été ceux de Claudie, Guillaume et Virginie. Et j'espère vraiment que mon successeur trouvera autant de plaisir que moi à diriger cet établissement et à vivre sur ce territoire incroyable que je vais avoir du mal à quitter, j'avoue.
Vous allez revenir.
Oui, bien sûr, c'est évident. Merci.
Je vous remercie, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt.
Vous écoutez Séquence Parc sur 107FM et sur le site www.radiopartas.net.
Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes, un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes, elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 8h30.
Séquence Parc sur le 107FM.